Chères auditrices, chers auditeurs, le 13 octobre prochain à midi, rejoignez-nous au Festival Pod Paris pour une table ronde exceptionnelle spéciale podcast santé organisée par Pyramidal Communication. Cette rencontre réunira des experts et des passionnés pour discuter des enjeux actuels et des innovations dans le domaine de la santé au travers du podcast. C'est l'occasion idéale pour découvrir les coulisses de vos podcasts santé préférés et rencontrer des professionnels du secteur. Ne manquez pas ce rendez-vous unique le 13 octobre à midi au Festival Pod Paris qui se tiendra à la Bellevilloise, rue Boyer dans le 20e arrondissement. Tous les renseignements sont disponibles sur le site podparis.fr. Rendez-vous le 13 octobre à midi. Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les vascularites à ANCA. Et pour évoquer la prise en charge de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Maxime Sanson. Professeur Sanson, bonjour.
Bonjour.
Professeur Sanson, vous êtes médecin interniste, PUPH au sein du service de médecine interne et immunologie clinique du CHU de Dijon. Vous êtes vice-président du groupe français d'études des vascularites. Vous avez participé à la rédaction de l'actualisation du PNDS sur les vascularites nécrosantes systémiques. Et vous êtes responsable du centre de référence des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares de l'adulte d'Île-de-France de l'Est et de l'Ouest, affilié à la filière FAI2R. Alors pour débuter notre entretien, professeur Sanson, quels sont les enjeux du traitement des vascularites à ANCA?
Alors c'est vrai qu'avec les traitements qui sont désormais disponibles, corticoïdes et immunosuppresseurs, le pronostic des vascularites associées aux ANCA s'est considérablement amélioré. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont des maladies qui sont graves et qui peuvent entraîner le décès du patient. Et il avait notamment été rapporté à la fin des années 70 que chez des patients qui n'étaient pas traités et qui étaient atteints de vascularite à ANCA, la survie était seulement de 10% à 5 ans. Donc ce sont des maladies qui sont sévères et qu'il faut traiter. Mais maintenant, avec les traitements disponibles aujourd'hui, et notamment les corticoïdes et les immunosuppresseurs dont on reparlera, eh bien donc plus de 90% des patients vont être en rémission à la fin du traitement d'induction. Et donc, les enjeux actuels, c'est plutôt d'améliorer la vitesse diagnostique de ces patients grâce à l'intervention des filières, d'améliorer les stratégies thérapeutiques et de diminuer les séquelles liées à la maladie, les séquelles liées aux rechutes et les séquelles liées au traitement, et notamment à l'effet immunosuppresseur, des corticoïdes et des traitements immunosuppresseurs ou des biothérapies.
Et justement, qui prend en charge ces patients?
Eh bien, donc, la prise en charge de ces patients, elle a été très nettement améliorée par les plans maladies rares, hein, parce que ce sont des maladies rares qui sont plus rares que le seuil de 1 cas pour 2000. Et donc, ce sont des pathologies qui vont être prise en charge notamment par les médecins internistes, néphrologues, pneumologues, mais aussi ORL. Ce sont des maladies systémiques qui peuvent toucher beaucoup d'organes. Et donc, on doit beaucoup à ce plan maladies rares et notamment au maillage de centres de référence et de centres de compétences organisés par la filière FAI2R.
Alors concrètement, professeur Sanson, comment est-ce qu'on prend en charge les patients qui sont touchés par une vascularite à ANCA?
Alors, les patients qui sont touchés par une vascularite à ANCA se voient proposer un traitement que schématiquement on peut découper en deux phases. Tout d'abord, un traitement d'induction. Ce traitement d'induction, au début, va avoir pour objectif de mettre la maladie en rémission avec le moins possible de séquelles, en quelque sorte sauver la vie du patient avec le moins possible de séquelles. Et la deuxième phase du traitement sera le traitement d'entretien pour prévenir la survenue de rechute. Donc le traitement d'induction va faire appel à des traitements qui doivent être efficaces rapidement. Ce sont généralement l'association de fortes doses de corticoïdes et d'immunosuppresseurs auxquels on ajoute parfois, en fonction du profil du patient, de la gravité de sa vascularite et de sa vitesse d'installation, d'autres traitements comme par exemple les échanges plasmatiques. À la fin de ce traitement d'induction, on réévalue la maladie pour s'assurer qu'elle est en rémission. Et si elle est en rémission, on va continuer avec le traitement d'entretien. Ces patients sont des patients qui ont tendance à faire des rechutes. Et donc, ce traitement d'entretien va être là pour prévenir la survenue de rechutes, puisque ces rechutes peuvent, elles aussi, menacer le pronostic vital des patients. Ce traitement d'entretien faisait appel auparavant à des corticoïdes dont on diminuait progressivement la dose jusqu'à, si possible, les arrêter en association à des immunosuppresseurs. Et ce sont les biothérapies dirigées contre le lymphocyte B qui ont réellement changé la donne sur l'efficacité de ce traitement d'entretien, en montrant que ces biothérapies ciblées contre les lymphocytes B étaient considérablement efficaces pour prévenir la survenue des rechutes. Et ça s'est donc imposé comme traitement d'entretien de référence chez ces patients qui vont recevoir une perfusion tous les 6 mois. Et donc, ils vont recevoir ce traitement pendant 2 ans, voire 4 ans, voire parfois plus longtemps. En plus de ce traitement d'entretien, que ce soit pendant le traitement d'induction ou d'entretien, eh bien, donc, il y a également des traitements associés qui ont notamment pour objectif de prévenir le risque infectieux. Ces patients sont immunodéprimés du fait de leur traitement et donc ils vont recevoir une antibioprophylaxie parfois. Il est important de leur recommander de maintenir à jour leur calendrier vaccinal. Bien entendu, les vaccinations obligatoires, mais aussi la vaccination contre la grippe, contre le Covid, contre le pneumocoque. Et puis donc, il y a toute la prise en charge des complications potentielles de la corticothérapie, comme l'ostéoporose, qui est également importante. Et surtout, il faut éduquer les patients pour qu'ils connaissent leur maladie, qu'ils connaissent les symptômes évocateurs de rechute, qu'ils sachent qui appeler en cas de symptômes et qu'ils connaissent les signes évoquant une infection pour lesquels il faut consulter rapidement son médecin généraliste ou son médecin spécialiste pour débuter une antibiothérapie au moindre doute.
Et ensuite, quel suivi proposer à ces patients, professeur Sanson ?
Comme je vous le disais, dans la phase d'induction où on va mettre la où l'objectif va être de mettre la maladie en rémission, on voit les patients très régulièrement, généralement en hôpital de jour. Et ensuite, lorsqu'ils sont en rémission, ce qui est la majorité des cas, ils vont passer dans une phase dite de traitement d'entretien. Et à ce moment-là, on va voir les patients, tous les 6 mois en consultation. Et ils ont des prises de sang et analyses d'urine assez régulières, généralement tous les 3 mois. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'analyse d'urine, puisque ce sont des maladies qui peuvent toucher le rein. Et l'atteinte rénale est généralement silencieuse, jusqu'à être vraiment très sévère. Et c'est pour ça que tous les 3 mois, on leur fait faire une recherche de protéines dans les urines et de sang dans les urines. Et donc ce suivi va être très prolongé pendant de nombreuses années, puisque comme je vous le disais, ce sont des pathologies qui ont tendance à rechuter. Et donc, ils sont en quelque sorte des pathologies chroniques. En plus de ça, et ça, c'est plus spécifique à la femme, chez les patients qui sont sous immunosuppresseurs, on a tendance à recommander un suivi gynécologique assez rapproché pour la prévention du dépistage du cancer du col, notamment. Et puis, donc, il y a un autre volet qui est important, c'est le suivi dermatologique. Tant que les patients reçoivent des immunosuppresseurs, il est quand même bon de les montrer régulièrement au dermato pour rechercher des cancers cutanés.
Alors, pour conclure notre entretien, professeur Sanson, aujourd'hui, quel est le pronostic des patients traités ?
Grosso modo, le pronostic, il est bon. Maintenant, il a été transformé par les progrès thérapeutiques qui ont été faits depuis les années 80 et l'amélioration des stratégies de prise en charge. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, plus de 90% des patients survivent à leur vascularite et sont mis en rémission, et c'est plutôt donc une maladie chronique. Pour donner des chiffres, à la phase aiguë de la maladie, avant que la rémission soit obtenue, les principales causes de décès sont les infections et les décès liés à la vascularite elle-même. Et ensuite, sur le long terme, la maladie est vraiment mieux contrôlée et les patients ne décèdent pas de la vascularite elle-même, mais plutôt notamment de cause cardiovasculaire. Donc le pronostic de ces patients est excellent et la plupart d'entre eux sont capables de reprendre une activité professionnelle lorsqu'ils avaient dû l'arrêter à cause du traitement de la vascularite.
Eh bien, merci infiniment, professeur Sanson, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les vascularites à ANCA. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.